Frères et sœurs bien-aimés, confinés en nos maisons en raison de l'épidémie du coronavirus, nous voilà malgré tout réunis autour de Notre-Dame de Lourdes, tout près de Sainte Bernadette, Nostra Santa. En prenant spirituellement la direction de la grotte de Massabielle, gardons avec nous ce chapelet qui, du matin jusqu'au soir, accompagne notre grande neuvaine de supplication à la Vierge Immaculée. Il est 20h30. La nuit tombe sur la grotte de Lourdes. Vous n'allez pas tarder à ressentir l'humidité montée du gave. Voilà que les chapelains qui se sont succédés toute la journée pour manifester notre présence à la grotte se retirent, passant le flambeau au cierge du grand candélabre. En effet, dans la nuit de ce monde confiné, la lueur des cierges prolonge notre prière autant qu'elle manifeste notre espérance. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Voici donc le moment favorable pour les veilleurs de Bigorre. Gardons nos lampes allumées. Cette mise en quarantaine, dans les 40 jours du carême, n'est pas sans vertu. Ainsi pouvons-nous traverser l'épreuve de ce coronavirus en tressant une corona virtus, une couronne de vertu. Vertu de la prière nous unissant à Dieu, vertu d'un confinement qui n'est pas sans nous rappeler l'invitation du divin maître lancée le mercredi des cendres. Toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. La porte de notre maison est fermée, mais celle de notre âme demeure plus que jamais grande ouverte à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. C'est ainsi que nous prions Dieu pour tous les malades, le corps médical, les familles séparées, les personnes isolées, que ce soit dans leur maison ou dans leur EHPAD. Et nous prions enfin pour que cesse ce fléau. Si pour prier, le Seigneur nous invite à nous retirer dans nos maisons et à en fermer les portes, le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes n'est pas en reste. Sanctuaire de la prière, le voilà constitué en nouveau cénacle, toute porte close. Comme jour de Pentecôte, nous y contemplons la bienheureuse Vierge Marie en prière, aux côtés de Sainte Bernadette et de nos aïeux dans la foi. Si le sanctuaire est fermé, la grotte reste, quant à elle, ouverte sur le monde. Déjà, les barricades dérisoires de 1858 n'ont pu fermer bien longtemps la grotte bénie. Elle demeure un pont ouvert entre la terre d'ici-bas et la gloire de l'autre monde. Saluons Notre-Dame au commencement de notre tour de veille. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors que nous veillons dans la nuit de ce carême, mettons-nous à l'école du message de Lourdes. Pour cela, Approfondissons-le à partir du verset que les sanctuaires de Lourdes proposaient à notre méditation jadis en l'an 2018. Faites tout ce qu'il vous dira. Nous voici dans l'Évangile selon saint Jean, au commencement du second chapitre. Cet ordre est lancé à Cana, en Galilée, par celle qui se révèle être la Mère de Dieu et notre Mère. Mère de Dieu, elle nous invite à mettre en pratique tout ce que le Verbe va nous dire. Faites ce qu'il vous dira. Mère autoritaire, elle nous envoie sans détour à son Fils, faites tout ce qu'il vous dira. Si la Sainte Vierge nous lance cet appel au commencement de la vie publique de son Fils, c'est parce qu'au long de sa vie cachée, elle s'est illustrée dans cette écoute attentive et obéissante de ce que Dieu avait à lui révéler. Saint Luc l'atteste dans son évangile. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Plus loin, l'évangéliste fait écho au cri de cette femme jaillissant du milieu de la foule. « Heureuse la mère qui t'a porté et dont les saints t'ont nourri. » Et saint Luc de nous rapporter la correction immédiate du Seigneur. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. En cela, le Seigneur ne dénigre pas sa mère. Il rappelle que la Vierge Marie a été choisie en raison de son humilité comme de sa docilité au Verbe de Dieu. « Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Ainsi, la Sainte Vierge nous invite-t-elle à Cana à partager son expérience. Faites tout ce qu'il vous dira. Ainsi, la Sainte Vierge nous invite-t-elle à Massabielle à vivre une expérience. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ? C'est ce pèlerinage que nous, veilleurs de Bigorre, accomplissons ce soir. Nous prendrons tout d'abord la direction de Cana en Galilée, afin de méditer à l'école des Pères de l'Église les mystères des noces de la rédemption. Puis nous reviendrons ici, à la grotte de Massabielle, afin d'approfondir le message des 18 apparitions dans lesquelles Bernadette n'a de cesse de faire ce que la belle dame lui dit. Mais me direz-vous, comment vous suivre à Cana alors que les frontières d'Israël, comme le sanctuaire de Lourdes, sont fermées à tous les pèlerins ? Sans prendre de bâton, d'argent ni de tunique de rechange, nous expérimentons en ce temps de confinement combien la prière nous affranchit. Aucun confinement, aussi sérieux soit-il, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu et de Notre-Dame. Aucun confinement, aussi sérieux soit-il, ne peut arracher le bigourdan à la grotte de Lourdes. Écoutons à présent cette page d'Évangile et demeurons quelque temps à Cana. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, Il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau les jarres !» Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Première partie, les noces de Cana à l'école des pères. L'évangile selon saint Jean s'ouvre par le prologue reliant l'Ancien Testament au Nouveau. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. La figure incarnant ce passage est celle de Jean-Baptiste. Dès le prologue, il apparaît à l'ombre de la lumière véritable qui éclaire tout homme. Cependant, insiste l'évangéliste, il n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Ce témoignage est rendu à l'occasion du baptême du Seigneur. Nous passons donc du prologue au bord du Jourdain. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Nous assistons alors à l'appel des premiers disciples. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour, et nous parvenons à Cana en Galilée, le troisième jour. C'est alors que nous rencontrons la Sainte Vierge pour la première fois. La mère de Jésus était là. Dans l'Évangile selon saint Jean, elle fait sa première apparition à Cana, et nous ne la retrouverons silencieuse qu'au pied de la croix. Celle que l'évangéliste nomme avec constance la mère de Jésus, sans jamais nous révéler son nom, ne parle qu'à Cana. Elle s'adresse à son fils, ils n'ont plus de vin. Puis au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Cet ordre justifie à lui seul le silence de la mère de Jésus, un silence qui se révèle être à l'écoute du Verbe de Dieu. Lorsque saint Jean Chrysostome se saisit de cette page d'évangile, il commence par remarquer que la raison de la présence de Jésus à Cana est l'invitation reçue par Marie. En effet, précise-t-il, ils invitèrent le Fils parce qu'ils avaient invité la mère. La mère de Jésus était là, Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. La suite, nous la connaissons, le vin vient à manquer. Attentive, la Vierge le remarque et anticipe le manque en intervenant auprès de son fils. Ils n'ont pas de vin. Comme le précisera l'évangéliste, Jésus n'avait encore jamais opéré de miracle. Marie n'avait donc pas expérimenté sa puissance comme son autorité sur la création. Pourtant, avec une audace redoublée de confiance, elle sollicite l'intervention de son Fils. Interrogeons-nous avec saint Jean Chrysostome, pourquoi donc Marie ne l'a-t-elle pas pressée plus tôt de faire des miracles ? Autrement dit, pourquoi avoir attendu Cana ? Ce à quoi saint Jean Chrysostome répond, dès qu'elle eut appris le témoignage que Jean-Baptiste lui avait rendu et qu'elle l'eut vu entouré de disciples, elle lui fait cette prière avec confiance. Si Marie se permet d'intervenir, c'est parce qu'elle a compris que l'heure est venue. Jean-Baptiste a rendu son témoignage au grand jour et non plus dans l'intimité familiale de la visitation. L'heure n'est donc plus à la vie cachée, mais à la vie publique. C'est la raison pour laquelle son fils s'est entouré de disciples. La lumière véritable doit sortir de l'ombre et faire des disciples la lumière du monde. Le silence doit faire place à la parole. La voix du Baptiste au Verbe de Dieu, d'où l'invitation toute maternelle à nous mettre à son service comme à son école. Faites tout ce qu'il vous dira, nous commande-t-elle. Mais remarquez que la Sainte Vierge n'est pas prise au dépourvu. Face au manque de vin, elle a établi un plan précis. Elle choisit le lieu et le moyen pour pallier à ce manque. Elle interpelle son fils, mais à côté des cuves pour les ablutions rituelles. Celles-ci sont vides à présent et conviendront pour contenir du vin en abondance. Pour les remplir, Marie tient près d'elle les serviteurs. Écoutons, Bède le Vénérable, commenter l'ordre lancé à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est, nous dit-il, comme si la Sainte Vierge disait aux serviteurs, il fera ce miracle, bien qu'il paraisse le refuser, car sa mère, conclut-il, connaissait sa bonté et son âme compatissante. Ce stratagème de la Sainte Vierge n'échappe pas à saint Jean Chrysostome qui constate « Elle avait fait approcher les serviteurs pour faire appuyer sa demande par un plus grand nombre de personnes. » D'ailleurs, la réponse de son fils ne l'ébranle pas. Il paraît se dérober en prétextant que son heure n'est pas venue, mais elle poursuit en s'adressant aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira. » Pour autant, elle ne passe pas en force, agissant par obstination selon le proverbe « Ce que femme veut, Dieu le veut. » Non, elle agit ici en mère qui connaît le cœur de son fils. Mettons-nous alors à l'école de saint Augustin qui nous dévoile ce soir le sens allégorique des noces de Cana. Il n'échappe pas au grand évêque d'Hippone que l'événement de Cana réunissant Marie, Jésus et ses disciples est la célébration d'un mariage. À ce sujet, l'évangéliste demeure silencieux. Qui sont les mariés ? Quel lien les unit à Marie et Jésus ? Le lien du sang ? Ou l'amitié ? Peu lui importe, car les noces de Cana évoquent symboliquement ce que saint Augustin nomme les noces de la rédemption, noces pour lesquelles la Vierge Marie est le lit nuptial. En effet, si lors de la création Ève sort d'Adam, plongée dans ce mystérieux sommeil, lors de l'incarnation, le nouvel Adam sort de la nouvelle Ève. Mais pourquoi le Verbe prend-il ainsi chair de la Vierge Marie ? C'est pour nous les hommes et pour notre salut qu'il descendit du ciel, répond le credo. Les noces de Cana, célébrées le troisième jour de la vie publique de Jésus, anticipent la rédemption qui manifestera sa gloire le troisième jour, celui de la résurrection. Cela nous permet de comprendre la réponse de Jésus à la demande de sa mère. Ils n'ont plus de vin. Il répond « Femme » et non pas « Mère ».« Femme, mon heure n'est pas venue. » Et saint Augustin de commenter. Jésus, en tant qu'homme, était inférieur à Marie et il lui était soumis. Mais en tant que Dieu, il était au-dessus de toutes les créatures. Le miracle qu'il devait opérer était l'œuvre de la divinité, non de la faible nature humaine. Il dit à sa mère « Femme, vous n'avez pas engendré la puissance qui doit en moi opérer ce miracle, c'est-à-dire ma divinité. » Au sujet de l'heure, indication qui structure l'évangile de Jean, saint Jean Chrysostome commente « Bien que Jésus vienne de dire « Mon heure n'est pas venue », il se rend cependant au désir de sa mère et démontre amplement par là qu'il n'était point soumis à l'heure. C'est également un témoignage d'honneur qu'il veut donner à sa mère pour ne point paraître la contredire et la couvrir de honte devant tant de témoins. À l'école des Pères de l'Église, il y aurait encore beaucoup d'éléments à approfondir, au sens littéral comme au sens allégorique. Retenons qu'à l'ombre de l'ordre lancé à Cana de Galilée, faites tout ce qu'il vous dira, se tient la mère de Jésus avec un plan précis en tête, une foi inébranlable, une confiance sans faille. Si au sens littéral, la Sainte Vierge s'adresse aux serviteurs des noces, elle n'oublie pas les disciples qui suivent son Fils, selon la conclusion de saint Jean. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Gardons également en mémoire le sens allégorique qui, du mariage célébré à Cana, anticipe les noces de la rédemption scellées au Golgotha. Oui, à Cana, la manifestation de gloire anticipe les noces de la rédemption le troisième jour. Même si l'heure n'est pas encore venue, le nouvel Adam trouve auprès de cette femme un cœur qui contemple déjà la lumière du jour de sa glorification. Il a auprès de lui cette femme qui vit déjà sur le même fuseau horaire de son œuvre de salut. Elle est la nouvelle Ève, et c'est à ce titre que nous la retrouverons au pied de la croix, comme dans ce jardin où sera déposé le corps de son Fils. Si elle demeure silencieuse, son silence est celui de la contemplation. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est donc au sens allégorique qu'elle nous lance cet appel à nous mettre à son service comme à son école, en devenant ses disciples. C'est dans cette perspective que les sanctuaires de Lourdes nous invitent à relire le message des apparitions à travers l'ordre lancé à Cana, en Galilée. À la grotte, la belle dame lance également des ordres et des appels répétés. En cela, comme nous allons le méditer à présent, le message de Lourdes porte l'écho de l'Évangile, l'écho d'une invitation renouvelée à participer aux noces de la rédemption. Deuxième partie, faites tout ce qu'il vous dira, un ordre lancé de Cana à la grotte de Massabielle. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici de retour à la grotte de Lourdes. Le verset introduisant les noces de Cana y résonne d'un écho particulier car, ici aussi, la mère de Jésus était là. Là, dans le creux du rocher où nous voyons aujourd'hui sa statue. Mais n'oublions pas qu'elle en descendait de cette niche pour faire face à Bernadette sans jamais poser les pieds sur le sol. Si à Massabielle, la mère de Jésus était là, auprès de Bernadette et des premiers pèlerins qui l'entouraient, nous pouvons ressentir, aujourd'hui encore, sa présence. D'ailleurs, si la dame nous invite à la grotte, c'est parce qu'elle nous y attend, la mère de Jésus est là. Si elle n'y était pas, ou si elle n'y était plus, pourquoi donc nous demander d'y venir ? De notre méditation des noces de Cana à l'école des Pères de l'Église, nous avons relevé que si Marie demande l'intervention miraculeuse de son fils, c'est suite au témoignage de Jean-Baptiste « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Il revenait au précurseur de préparer le chemin du Seigneur, d'appeler les hommes à la conversion et à la pénitence sur ses paroles, rapportées par saint Luc, « Produisez des fruits qui expriment votre conversion ». Les apparitions de Lourdes viennent produire un fruit qui vient exprimer notre conversion. À Lourdes, la Sainte Vierge n'est peut-être pas revêtue d'une tunique en poil de chameau. Elle ne porte peut-être pas une ceinture de cuir autour des reins, mais elle reprend le ministère de Saint Jean-Baptiste. Elle est cette voix qui se lève pour nous appeler à la conversion et à la pénitence. D'ailleurs, si elle fait jaillir l'eau de la source, c'est pour y laver les péchés, comme Jean plongeait les pécheurs dans les eaux du Jourdain. Comme le Baptiste, la belle dame n'est pas la lumière véritable, mais elle vient rendre témoignage à la lumière. Et parce qu'elle est sa mère, elle apparaît dans ce halo lumineux dont Bernadette rapportait qu'il venait un peu avant l'apparition et restait un peu après. Ce témoignage rendu à la lumière éclaire l'obscurité de la grotte. La source qu'elle en fait jaillir vient laver l'ancienne porcherie municipale de Massabielle, image d'un monde qui s'éloigne du règne de Dieu, d'une humanité qui se complaît dans l'animalité, jusqu'à oublier qu'elle est porteuse de l'image et de la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi il a plu au Dieu trois fois saint de nous envoyer le miroir le plus parfait de la sainteté humaine, la Vierge Immaculée. Elle est le miroir qui reflète parfaitement l'Évangile et nous y renvoie sans détour. Elle est la mère dont le cœur immaculé bat à l'unisson de celui de son Fils. Elle est la femme de l'homme nouveau et à ce titre, dans l'Évangile comme à Lourdes nous ordonne, faites tout ce qu'il vous dira. Faire et dire, tels sont les maîtres mots de cet ordre maternel. Faire et dire, tels sont les maîtres mots du langage prophétique dont la dame use en notre patois. Avant de dire la moindre parole, la dame la fait vivre à Bernadette. Prenons un exemple. Avant de nous appeler à la prière en date du 24 février 1858, la dame prie avec Bernadette depuis le 11 février. Telle est la clé de lecture des apparitions. Avant la moindre parole, viennent les actes. C'est, permettez la parenthèse, l'inverse de la politique politicienne qui parle encore et encore, mais dont les actes se font parfois trop attendre s'ils arrivent. Notre-Dame de Lourdes, reine des prophètes, agit dans le face-à-face de ses rencontres avec la petite Soubirousse. Elle agit auprès d'elle par des signes concrets qui seront alors repris dans de très brèves paroles. En raison de cette nature prophétique, le message de Lourdes est alors très proche des saints évangiles. En effet, les évangélistes auraient pu se contenter de nous dresser la liste des paroles prononcées par Jésus, le Verbe de Dieu. Mais à l'ombre du Saint-Esprit, il nous invite à devenir les familiers de l'Évangile. Nous suivons le Seigneur de Judée en Galilée, nous rencontrons en sa compagnie Zachée, Marie-Madeleine, ou comme dimanche prochain, l'aveugle de naissance. C'est au détour de ces rencontres que se dessine pour nous le visage du Christ. C'est dans l'extase des apparitions que Bernadette se laisse façonner par le sourire de la belle dame. En se mettant à son école, Bernadette va faire tout ce que la dame va lui dire. En cela, la Sainte Vierge répond à la soif et à la fin de Bernadette. En effet, au temps des apparitions, Bernadette est rentrée à Lourdes parce qu'elle a soif de Dieu, soif de mieux le connaître dans le catéchisme. Bernadette a également faim de Dieu, désirant plus que tout le recevoir dans l'intimité de la Sainte Communion. La dame vient étancher la soif de Bernadette et la préparer à cette première communion prenant place avant la dernière apparition, le 3 juin 1858. Le message de Lourdes est donc celui d'une rencontre entre deux jeunes filles, une rencontre préparatoire à celle du Christ, dont Bernadette deviendra mystiquement l'épouse en devenant religieuse à Nevers. Si on se contentait de dresser l'inventaire des quelques paroles rapportées par Bernadette, le risque serait grand de passer à côté du message de Notre-Dame de Lourdes. C'est la raison pour laquelle René Laurentin, en Nouvel Évangéliste, nous offre dans ses ouvrages un exposé fidèle des événements de Lourdes. En historien consciencieux, il croise les témoignages. En homme de lettres, il dresse un récit fidèle des événements. Ce n'est qu'avec réserve qu'il tire des conclusions sur le sens des apparitions. Ainsi écrit-il au terme de son récit, « Le message de Lourdes se laisse résumer en 4 points, proposés en actes, avant qu'en parole, et plus qu'en parole, selon le style de la Bible et surtout des prophètes. 4 points qui tiennent en 4 mots très simples et qui commandent la vie du pèlerinage. Pauvreté, prière, pénitence et le nom de la dame. Prenons ici l'exemple de la pauvreté qui, dans le message de Lourdes, est un non-dit. En effet, la dame ne parle pas de pauvreté. Si aucun mot n'est prononcé à ce sujet, nous méditerons dans la conférence de vendredi prochain qu'elle est en tous les cas la toile de fond des apparitions. Bernadette est pauvre et a plus d'un titre. Nous vérifierons alors combien sa pauvreté est le critère de son élection. Si elle en avait trouvé une plus pauvre et plus ignorante que moi, elle l'aurait choisie, reconnaît volontiers Bernadette. Ses pauvretés vont devenir en elle une vertu éprouvée, une vertu évangélique qui germera à Massabielle et portera du fruit à Nevers, jusqu'à tomber en terre le 16 avril 1879. Si l'on en restait aux paroles prononcées, nous passerions à côté de cette tonalité fondamentale du message de Lourdes, qui en cela est le parfait écho de l'Évangile « Bienheureux les pauvres ». Troisième partie, les apparitions de Lourdes, cheminement d'un retour vers Dieu. De son examen des apparitions, Mgr Laurentin constate que les événements de Lourdes présentent un ordre. Ordre qu'il synthétise dans un schéma que vous pouvez télécharger. Ce schéma donne à voir la progression du cheminement auquel la dame invite Bernadette. S'il commence et s'achève par deux rencontres imprévues, le 11 février et le 16 juillet, l'invitation de la dame à venir ici pendant 15 jours a lieu le jeudi 18 février, le lendemain du mercredi des cendres. Ce pèlerinage auquel la dame nous invite à la suite de Bernadette est celui qui, de l'austérité du carême, nous ouvre à la joie de Pâques. L'ordonnancement des apparitions, leur progression, manifeste le mouvement même de la conversion évangélique, pauvreté, prière, pénitence. Ce mouvement est couronné par la révélation du nom de la dame s'inscrivant au cœur de ce retour à Dieu. Nom de la dame que nous méditerons lors de la conférence de carême mercredi prochain, alors que nous fêterons avec toute l'Église l'Annonciation de Notre-Dame, faisant par la même mémoire de la 16e apparition. La dame donne le ton en marquant la première apparition du signe de la croix. Il fait place à la prière qui unit l'âme à Dieu. Le chapelet achevé, la jeune demoiselle, dans le creux du rocher, fait signe à Bernadette de s'approcher. Elle invite à traverser le canal et à la rejoindre sur l'autre rive. Mais Bernadette ne se sent pas encore de répondre à une telle invitation. Le dimanche suivant, 14 février, après les vêpres, Bernadette ressent l'appel de la grotte. Elle s'y rend munie d'une bouteille qu'elle a remplie d'eau bénite. C'est que dans ses angoisses, Louise, la mère de Bernadette, craint qu'il ne s'agisse du démon. Le bon sens chrétien l'emporte, et avec lui, l'eau bénite. Accompagnée par ses camarades de la classe des indigents, voilà Bernadette qui court à Massabielle, dévale la ravine et s'exclame en arrivant ou peu après, « Qu'est-ce-là ? » Elle est là. Écoutons Bernadette nous rapporter cette apparition. Je me mis à lui jeter de l'eau bénite tout en lui disant, si elle venait de la part de Dieu de rester, sinon de s'en aller. Et je me dépêchais toujours de lui en jeter. Elle se mit à sourire, à incliner la tête. Et plus je l'arrosais, plus elle souriait et inclinait la tête, et plus je lui voyais faire ses signes. Et alors, saisie de frayeur, je me dépêchais aussi de l'asperger, et je le fis jusqu'à ce que la bouteille fût épuisée. Mais le véritable prologue des apparitions, comme le nomme Mgr Laurentin, a lieu le jeudi 18 février. Les signes, les sourires, le silence, la prière font place au dialogue. La dame livre ses premiers mots. Ils sont motivés par la curiosité de Bernadette poussée, par Madame Millet et Antoinette Peyret, découvrir qui apparaît à Massabielle. C'est alors que Bernadette tend une écritoire, une plume, de l'encre et du papier. Mais la belle dame répond « N'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. » Le Seigneur non plus n'a pas mis par écrit les évangiles. Il s'est manifesté en se donnant à voir et à entendre. À sa suite, la dame se manifeste apparition après apparition. C'est pourquoi elle invite Bernadette à une rencontre régulière. « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Et le prologue des apparitions se renferme sur cette promesse. « Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. » Ce passage de ce monde au royaume des cieux est la finalité du cheminement du carême que nous vivons cette année en quarantaine. Cette tonalité pénitentielle et d'appel à la conversion habite les 12 apparitions qui, du 19 février, nous conduisent au 4 mars. En leur centre, remarque Monseigneur Laurentin, prend place le jaillissement de la source le jeudi 25 février, un mois avant la révélation du nom de la Dame. Ce sera un autre jeudi, le 25 mars. Nous méditerons dans la conférence de mercredi soir ce lien unissant ces 2 apparitions. En amont de la source, du 19 au 24 février, le visage de Bernadette qui reflète l'état d'âme de la belle dame est aussi lumineux que joyeux. Mais à partir du 25 février, les extases se font plus ternes et les exercices spirituels plus rebutants. En effet, la dame demande à Bernadette de baiser la terre, creuser le sol, boire une eau boueuse ou encore manger de l'herbe. Ce changement qui accompagne la découverte de la source est ce que René Laurentin nomme dans son récit « la douche froide ressentie par les curieux de la grotte ». Le visage de Bernadette passe de la joie à l'austérité. Le carême avance et avec lui le dépouillement du vieil homme dont parle saint Paul en vue de l'émergence pascale de l'homme nouveau. Le curé de Lourdes, l'abbé Peyramal, qui n'avait pas trouvé de prédicateur cette année-là pour sa paroisse, pour prêcher l'année jubilaire 1858, constate que depuis les événements de Massabielle, les retours à Dieu sont plus sincères et nombreux. C'est que la dame prêche dans le désert, comme jadis Jean le Baptiste. Elle fait jaillir l'eau du rocher, comme Moïse conduisant le peuple vers la terre promise. Elle fait manger à Bernadette les herbes amères de la Pâque du Seigneur. Elle ne se contente pas de déclarer « Faites tout ce qu'il vous dira ». Elle en manifeste l'exigence par des exercices de pénitence concrets. René Laurentin approfondit la portée de ces actes de pénitence en ces termes. Lourdes se situe dans le courant prophétique. Et dans ce courant, c'est la loi que le message éclate en gestes symboliques, en signes abrupts, destinés à faire choc. Cet acte difficile qu'est la pénitence, regret du péché et conversion vers Dieu, a besoin d'être préparé par des exercices extérieurs dont la fonction est multiple. Vaincre l'inertie du péché, engager le corps, partie substantielle de l'être humain dans l'acte de conversion. Enfin, conclut avec précision René Laurentin, le théologien de Lourdes. Dans la Bible, comme dans l'Église d'aujourd'hui, la pénitence signe, entendez les exercices de pénitence, la pénitence signe est la voie normale qui conduit à la pénitence réalité, la conversion du cœur. Si nous avons à la suite de Bernadette à poser des actes, boire à la source, nous y laver, c'est parce que ce signe répété finira par manifester, par réaliser la pénitence sincère en nos âmes. Mais lors de la dernière de ces 12 apparitions, la fièvre monte dans les esprits pour les pèlerins et les curieux de la grotte. La 12e apparition est la 15e à bien les compter depuis le 11 février. Ce dernier jour devrait être celui d'un miracle public, comme en son temps la dernière apparition de Garaison, ou si seule Anglaise de Sagazan voyait la Sainte Vierge, tous ont entendu sa voix. Mais ici, la soif n'est plus celle de la source de Massabielle avec ses actes de pénitence, mais la soif du miraculeux, du spectacle. La déception est grande ce jour-là, car rien de bien particulier ne s'y passe. L'agitation des esprits est alors entretenue par quelques faux miracles, des faux prophètes, des faux voyants. La dame n'apparaît plus. Elle laisse les esprits se calmer. Son heure n'est pas venue. Après 3 semaines de silence, Bernadette ressent de nouveau l'appel de la grotte. Nous sommes toujours dans le temps du carême, mais plus précisément dans le temps de la Passion. On ramasse palmes et rameaux pour le dimanche qui vient, la Semaine Sainte approche. Ce jeudi-là, le 25 mars, l'Église fête l'Annonciation. Tel est le jour choisi par la belle dame pour enfin révéler son nom. Dès la 3e apparition, la question de l'identité de la dame était sur les lèvres de Bernadette. Elle réitère cette demande certainement le mercredi 3 mars, mais assurément le 4, toujours en vain. Ce jeudi 25 mars, à 4 reprises, Bernadette demande « Mademoiselle, voulez-vous avoir la bonté de me dire qui est, s'il vous plaît ?»« Mademoiselle, voulez-vous avoir la bonté de me dire qui vous êtes, s'il vous plaît ?» Et voici que dans un geste ample et solennel, la belle dame déclare « Que soyera Immaculada Conception ». De la grotte de Nazareth, où lui apparaît l'archange Gabriel, à la grotte de Massabielle, où elle apparaît à Bernadette, le nom de la Sainte Vierge est dévoilé. Je vous salue, pleine de grâce, je suis l'Immaculée Conception. Mais révélant son nom, à la suite des exercices de pénitence du carême, René Laurentin s'interroge. Pourquoi celle qui vient ainsi au secours des pécheurs se nomme-t-elle plus précisément l'Immaculée Conception? N'est-ce pas là une sorte de contradiction? Se présenter ainsi aux pécheurs comme la Vierge sans péché, n'est-ce pas marquer les distances à leur égard? En effet, constate-t-il, nous avons tendance à penser qu'il faut être pécheur pour comprendre les pécheurs. Mais cela est faux, complètement faux. Le péché est une privation, une absence de bien véritable. Il cause la division à l'intérieur du cœur comme de la société, nous coupant de l'amour de Dieu. C'est pourquoi René Laurentin conclut « Ce n'est pas par le péché que l'on comprend les pécheurs, mais par l'amour et la miséricorde. Ici éclate la portée positive de l'Immaculée Conception, la Vierge, et celle en qui nul péché n'a étriqué l'amour. C'est donc avec amour et une compassion toute maternelle qu'elle se présente aux pécheurs que nous sommes, à Massabielle. Si elle choisit le jour de l'Annonciation pour révéler son nom, elle s'inscrit dans le même temps, dans les jours de la Passion, où le même amour et la même compassion habitent le Seigneur. Si elle révèle ainsi son nom et sa nature, elle le fait au terme de l'entraînement du carême et nous donne à entrevoir notre état dans l'autre monde. Au carême fait suite le temps de Pâques. Bernadette ressent l'appel de la grotte le mercredi 7 avril, c'est-à-dire le mercredi de l'octave de Pâques. À la grotte, on a donné à Bernadette un cierge, mais ce jour-là, pesant 2 livres, il est trop lourd pour qu'elle le porte. Elle le tient donc posé sur le sol et protège la flamme de sa main. En effet, les courants d'air ne manquent pas à Massabielle. Pour s'en protéger, le docteur Dozou, venant d'arriver, ne retire pas son chapeau. L'indignation de la foule ne se fait pas attendre. C'est qu'à la grotte des apparitions, on se comporte comme à l'église. L'homme, fût-il de science, doit se découvrir par respect. Mais le docteur répond qu'il vient ici non en homme de foi, mais en homme de science. Durant l'apparition, voici ce que la tradition a nommé le miracle du cierge. La flamme virevolte entre les doigts de Bernadette en extase. Ce contact dure 10 minutes montre en main. Après 1 heure d'extase, la voyante salue la dame et le docteur Dozou constate alors que ne se trouve dans la main de Bernadette aucune trace de brûlure. Il passe la flamme sur sa main qu'elle éloigne aussitôt, sans comprendre la raison d'une telle vérification. Alors, en nouveau saint Thomas, le docteur lui déclare « Je ne sais pas ce que tu vois, mais maintenant je crois, tu vois quelque chose. » Le cierge pascal, la flamme, un nouveau saint Thomas, la 17e apparition marque le temps de Pâques. Enfin, 100 jours plus tard, le vendredi 16 juillet, la grotte, avec ses barricades, oblige Bernadette à se tenir de l'autre côté du gave, dans ce que les pèlerins nomment communément aujourd'hui la prairie. La dame lui apparaît en ce jour où l'église l'honore sous le vocable de Notre-Dame du Mont-Carmel. Bernadette la voit plus belle que jamais pour la dernière fois, ici-bas. Ainsi s'achève ce que René Laurentin nomme l'épilogue des apparitions. À l'école des Pères de l'Église, comme à l'école de Sainte Bernadette, la Sainte Vierge nous apparaît comme le reflet parfait d'un évangile vécu en plénitude. C'est pourquoi, à Cana en Galilée, comme à la grotte de Lourdes, elle nous lance cet appel « Faites tout ce qu'il vous dira ». « Faites !» nous dit-elle. À Massabielle, le côté pratique des apparitions nous renvoie à la pauvreté, à la prière et à la pénitence. Monseigneur Laurentin en conclut que cette pratique enseignée par la Dame nous ramène au préambule même de l'Évangile, à la prédication de Jean-Baptiste, au baptême de pénitence, au sermon de la montagne qui commence par ces mots « Bienheureux les pauvres » et propose un nouveau statut de la prière et de la conversion, il s'agit d'un retour aux sources. Oui, le message de Lourdes, comme celui de l'Évangile, a ce côté pratique. Nous sommes invités à le vivre ici-bas par des exercices de pénitence qui, par l'intermédiaire de notre corps, finissent par atteindre notre âme, boire à la source et s'y laver, prier, venir en procession. Que ce temps de confinement, chers frères et sœurs, nous empêchant d'aller librement à la grotte puiser l'eau de la source, creuse en nous la soif de l'autre monde. Ce pèlerinage auquel la Sainte Vierge nous convie s'inscrit dans le cheminement du carême. Il dépouille le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Cette conversion prêchée par la Dame n'est que l'écho de l'Évangile. Mais le message de Lourdes n'est pas que pratique, il est également contemplation. Dès le 11 février, Bernadette a expérimenté l'amour de Dieu, passant par ce cœur à cœur vécu auprès de celle qui se tient debout au pied de la croix. Le silence de la prière, les sentiments perceptibles sur son visage, n'était que le reflet du cœur immaculé de la belle dame. Là où Saint Jean résume « Dieu est amour », Bernadette en conclut « Il suffit d'aimer ». C'est ainsi qu'elle a vécu, à la suite de la Sainte Vierge, l'Évangile en plénitude et qu'elle semble nous dire, dans l'intimité de nos âmes ce soir, « Faites tout ». Ce qu'elle vous dira. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonsoir, chers frères et sœurs, à vous donner rendez-vous mercredi pour une nouvelle conférence de carême. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.